Bonjour Samuel Comblé.
Bonjour.
Vous êtes psychologue de l'enfance et de l'adolescence, directeur des opérations du 30-18. C'est un numéro gratuit mis en place par l'association e-enfance pour protéger les plus jeunes sur Internet. Merci d'être avec nous ce matin, car il y a une actualité, une application ces derniers jours qui fait un peu scandale. Elle s'appelle rencontreado.com. C'est un forum destiné aux 13-25 ans. Déjà, cet âge pose problème, déjà. Des parents, peut-être nos auditeurs, se sont inquiétés de la présence de prédateurs sexuels. De nombreux articles le prouvent. Il y a malheureusement peu de contrôle. Ma question est simple. Faut-il fermer ce site?
Alors non, je pense pas qu'il faille fermer ce genre de site. D'abord parce qu'il en existe beaucoup d'autres. Parce que si on ferme ce genre de site, on pourrait aussi aller jusqu'à fermer les réseaux sociaux les plus connus, Facebook, ouais. Instagram, etc. Qu'on pourrait considérer aussi comme des sites de rencontre. À la limite, hein, ce site dont vous parlez, c'est un endroit pour parler, pour échanger. Le problème, c'est pas trop l'existence de ce site. Le problème, c'est qu'effectivement, comme vous l'avez rappelé, il y a des prédateurs sexuels. Il y en a qui s'en servent à mauvais escient et pour proposer des expériences sexuelles ou avoir des contacts graveleux avec les jeunes. Le problème de ce site, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de modération, qu'il n'y a pas suffisamment de surveillance, que quand des jeunes signalent des comportements inadaptés, bah il est vrai qu'il a été rapporté qu'il y avait peu de réactions de la part des propriétaires de ce site. Donc il y a peut-être quelque chose à repenser en termes de protection et de signalement, ça c'est vrai. Le fermer me semblerait peut-être un mauvais message envoyé aux jeunes, parce que heureusement on est dans un pays où un jeune de 13 ans peut tout à fait parler à des adultes de 25 ans. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'effectivement parmi ces personnes de 25 ans, il y en a qui sont mal intentionnées, et c'est là où il faut agir.
Le parquet de Paris a été saisi par Jean-Noël Barrot, le ministre délégué au numérique. Google a décidé de supprimer l'application du site pour son site de téléchargement, grosso modo, pour infraction aux conditions générales d'utilisation. Vous l'avez dit, cette appli, finalement, est-ce que c'est pas l'arbre qui cache la forêt? Parce que dans ce cas-là, TikTok, Snapchat, Facebook, qui ont beaucoup plus d'utilisateurs, posent problème aussi.
Exactement. Et puis, ce que je vous dirais, c'est que ce site, il existe depuis 17 ans. J'ai envie de dire aux adultes qui, aujourd'hui, s'insurgent contre ce site, enfin, il aurait peut-être fallu qu'on se réveille un petit peu avant. Et ça montre aussi, à mon sens, que les adultes ne sont pas très au courant de ce qui se passe sur Internet s'agissant des usages numériques des jeunes. Donc peut-être que c'est aussi une alerte pour nous, en tant qu'association, en tant qu'adulte, en tant que professionnel, de se dire peut-être qu'on doit regarder un petit peu plus ce que font les jeunes, parce que je pense que la solution va passer aussi par la pédagogie. Il faut expliquer qu'effectivement, à un jeune de 13 ans qui commence sa vie numérique sur ce site, que attention, derrière un profil qui peut paraître très anodin d'un jeune qui dit avoir 16 ou 17 ans, peut se cacher effectivement un prédateur qui peut te poser problème.
Cela fait 20 ans que vous travaillez sur ces questions de protection de l'enfance. Il y a 20 ans, j'étais ado, vous étiez ado, et des forums pour les jeunes, ça existait déjà.
Absolument.
Sur le web, on échangeait sur Skyblog, Caramel, ça ne nous rajeunit pas, mais sur AOL, il y avait eu aussi des affaires retentissantes de pédophilie, malheureusement. Qu'est-ce qui a basculé, finalement, en deux décennies?
Alors, ce qui a basculé, c'est que d'abord, les jeunes sont de plus en plus équipés. Peut-être qu'à notre époque, il y en avait moins.
On n'avait pas le smartphone dans la poche.
Exactement. Que les personnes mal attentionnées ont aussi été beaucoup plus nombreuses, sont beaucoup plus nombreuses aujourd'hui. Ce qui a changé aussi, c'est que les jeunes sont sur Internet de plus en plus tôt. Donc, ils ont une pratique presque naturelle et quotidienne à partir du moment où ils ont 13 ans, puisque c'est l'âge à partir duquel on peut s'inscrire. Mais déjà bien avant, ils ont déjà l'habitude d'aller sur ces sites. Et puis, je dirais qu'il y a une espèce de banalisation d'utilisation de ces sites, que la pédophilie en ligne, c'est un vrai problème depuis très longtemps et ça reste un gros souci aujourd'hui dont on ne parle peut-être pas suffisamment. Peut-être qu'effectivement, il faut se donner les moyens de faire face à cette problématique, parce que les parents sont souvent très éloignés de la conscience que ce problème existe, parce que souvent, quand on en parle aux parents, ils n'ont pas envie d'entendre, parce qu'on n'a pas envie d'imaginer son enfant avec une personne pédophile qui proposerait des images ou des expériences sexuelles. Pour autant, je pense que c'est un sujet qu'il faudrait avoir dans les familles, dans les écoles, pour pouvoir pas inquiéter ou choquer, mais pour dire, malheureusement,
c'est
ça existe.
Réalité.
Pour l'instant, on n'a pas trouvé de solution radicale pour pouvoir faire en sorte que ces gens ne nuisent pas aux enfants. Et puis, il y a une chose aussi qu'on pourrait se dire aussi, c'est que il faudrait aujourd'hui que sur Internet, on puisse davantage savoir savoir quel est l'âge des utilisateurs. Aujourd'hui, on n'a aucun système pour savoir si un utilisateur est majeur ou pas. Si on avait un système, et quand je dis système, c'est parce que je parle de technologie, d'intelligence artificielle, etc. Il y a des choses qui se développent en ce moment. Si on arrivait déjà à savoir si un jeune est majeur ou pas, on pourrait, dans ce cas-là, lui proposer des services qui lui sont adaptés. Et peut-être que si on sait qu'il est majeur, on pourrait se dire aussi, est-ce qu'il a plus de 15 ans, moins de 15 ans, et du coup, pouvoir faire en sorte que les personnes d'un certain âge ne puissent pas avoir accès à ces mineurs. Or là, à partir du moment où vous allumez votre ordinateur, Internet considère que vous êtes un majeur, en tout cas que vous avez accès au même service que si vous étiez un adulte. Et ça, c'est problématique.
Et l'anonymat pose problème. Vous Exactement. Qui êtes psychothérapeute, est-ce que les enfants et adolescents ont conscience de ces risques sur Internet, de leur sexualisation, c'est le mot exact. Finalement, quelle est la différence avec les adultes sur ce thème-là?
Alors, je vous dirais qu'en 2023, oui, les jeunes aujourd'hui ne sont pas naïfs, ne sont pas complètement extérieurs à la connaissance de ces problématiques. Heureusement, je dirais qu'il y a une maturité de plus en plus forte de la part des mineurs, adolescents, enfants, concernant ces sujets. Quand on en parle à l'association e-enfance, au 38 avec les jeunes nous disent « Mais oui, on sait très bien qu'il y a des faux profils. On sait très bien que derrière un profil peut se cacher quelqu'un de préjudiciable. C'est pas le souci. » Ce qui est par contre étonnant dans le discours des jeunes aujourd'hui, c'est qu'ils nous disent: je sais que le problème existe, mais je ne mets rien en place pour empêcher que je puisse être victime. Le harcèlement, je vais prendre cette problématique qui est quand même très présente dans la vie des jeunes. Beaucoup de jeunes nous le disent quand ils appellent le 3018, ils nous disent: je sais que ce problème existe, je savais que ça existait, pour autant je viens de découvrir que j'en suis victime et je ne pensais pas que ça puisse m'arriver à moi et je n'ai rien fait pour que ça ne puisse pas arriver. Et c'est là, je trouve, tout le paradoxe que nous avons, c'est que on informe beaucoup sur les dangers, mais par contre ce qu'on ne dit pas aux jeunes, c'est comment on peut faire pour se préparer ou se protéger de ces dangers. Et c'est là tout le travail que nous avons à faire, de développer une conscience que, oui, il y a un certain nombre de préalables, tout comme quand on apprend à un enfant au départ, quand il est sur le trottoir très jeune, à faire attention de regarder à gauche et à droite avant de traverser parce qu'il y a un danger. De regarder à gauche et à droite, c'est une petite technique qu'on apprend pour se protéger. Connaître le danger, savoir qu'il y a des voitures qui peuvent nous renverser, c'est une chose, mais une fois qu'on le sait, il faut savoir comment s'en protéger.
Aujourd'hui entre en vigueur un nouveau règlement européen, un règlement unique au monde, ça s'appelle le DSA, en anglais Digital Service Act, en français la loi sur les services numériques. Ce qui est illégal hors ligne doit l'être aussi en ligne, résume le Figaro ce matin. Vous êtes référent, je crois, pour ce DSA. C'est un vœu pieux, cette histoire de illégal hors ligne.
Alors, il faut que ça ne le devienne plus. Ouais. Il faut que effectivement, ce qui est hors ligne illégal le soit aussi en ligne. Alors, c'est vrai que ce texte, il est important, ça commence aujourd'hui et ça va permettre de responsabiliser les plus grosses plateformes, les 17 plus grosses plateformes utilisées donc majoritairement les réseaux sociaux, aussi quelques moteurs de recherche, et ça va donner de nouvelles règles. C'est vrai que sur vos antennes, on déplore régulièrement un certain nombre de problèmes en se disant on n'a pas l'arsenal juridique, on n'a pas les moyens de protection, on n'a rien fait auparavant en termes de prévention pour que ça n'arrive pas. À partir du moment où le DSA aujourd'hui va se mettre en place, j'espère qu'on sera moins amené à se rencontrer pour parler de ces problèmes, parce que justement,
serait pas mal. Mais le problème, c'est que ce sont des plateformes américaines, chinoises, et que c'est pas les mêmes lois finalement.
Alors, c'est pas les mêmes lois, mais à partir du moment où un utilisateur européen utilise ces plateformes, même étrangères, le DSA s'impose à ces plateformes. Donc, elles ne peuvent pas se cacher derrière le fait que elles ont leur siège aux États-Unis et que du coup, elles ne respectent pas la loi. Elles doivent respecter la loi européenne, elles doivent respecter la loi française, puisqu'il y aura une déclinaison du DSA en France, ce qui permet au moins de protéger les internautes européens. Et puis, on peut espérer que ce texte, qui est quand même assez révolutionnaire, il faut le dire, je pense qu'on peut utiliser ce terme-là, parce qu'il met en place un certain nombre de mesures extrêmement importantes et jusqu'à présent jamais connues au monde. On peut espérer que peut-être le DSA fasse tache d'huile, peut-être, et que peut-être tous les pays du monde s'en dotent également, comme le RGPD, ce site qui protège les données personnelles. Aujourd'hui, un certain nombre de pays ont pris, je dirais, le modèle européen et peut-être qu'on peut imaginer qu'à un moment, il y aura un DSA mondial qui permettra de protéger tous les internautes.
Pour notre dernière minute, 20% des 6-18 ans ont déjà été confrontés à une situation de cyberharcèlement. Ça peut passer par des intimidations, le chantage, le piratage, ça peut conduire à des drames, des suicides d'adolescents. Est-ce que vous êtes optimiste pour la suite?
Alors, oui, je suis optimiste parce que d'abord, il faut l'être, sinon on n'avance pas. Deuxièmement, parce que, comme je disais, il y a une maturité de plus en plus importante de la part des jeunes pour se protéger, et je pense qu'on avance petit à petit, parce que le DSA va nous aider, parce que le 3018 existe. C'est un service, je le dis, pour les parents et pour les victimes, pour justement se protéger. Il y a des psychologues, des juristes, tous les jours de l'année, sans aucun jour d'interruption, de 9h à 23h, qui peuvent justement aider à y voir clair, qui peuvent aider les victimes et qui peuvent faire remonter des signalements. Et le DSA, justement, à partir d'aujourd'hui, va permettre aux victimes de davantage être entendues par ces plateformes, qui vont devoir rendre compte de ce qu'elles font vis-à-vis justement de ces signalements de harcèlement, ce qui n'était pas le cas avant. Les victimes étaient en général complètement désœuvrées, laissées un petit peu toutes seules. Bah, aujourd'hui, il va y avoir une vraie prise en charge, une vraie prise en compte de leurs paroles, et je pense qu'on peut être assez optimiste.
Oui. On vous réinvitera pour faire un petit peu le bilan de cette histoire de DSA. Merci beaucoup en tout cas, Samuel Comblé. Merci. Vous êtes psychologue, directeur des opérations du 3018. On rappelle ce numéro gratuit pour protéger les jeunes sur Internet. Nous, on se retrouve dans quelques secondes pour le journal imprévisible.